What's up, Doc?
Et ce matin dans What's Up Doc, nous allons nous intéresser à la variole du singe avec notre invité qui nous fait le plaisir d'avoir répondu présent comme à l'accoutumée. Je serais tenté de dire puisque chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond oui avec plaisir. Je veux parler du docteur Jean Gérin, infectiologue et chef du service médecine interne à Chirexit Delta. Bonjour docteur Gérin.
Oui, bonjour monsieur.
Ravi de vous retrouver. Merci à vous d'accepter cette invitation à une heure aussi prompte de la journée. Alors, on va parler du sujet qui agite absolument le monde entier en ce moment et sur les réseaux sociaux, ça ne manque pas de commentaires. Je veux parler de la variole du singe. Alors, il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, c'était quasiment inconnu, c'était sous les écrans radars. Et puis l'OMS a adressé un message en disant attention, il y a un risque d'épidémie de variole du singe puisque les cas ont explosé, si je peux m'exprimer ainsi, notamment en République démocratique du Congo. Alors, dans un premier temps, si vous le voulez bien, on va définir ensemble, vous allez nous définir ce qu'est exactement la variole du singe en quelques mots.
Oui, c'est assez simple. En fait, donc, la variole du singe, ressemble à la variole qui a touché l'humanité jusqu'il y a quelques années. Donc, c'est un virus qui se transmet essentiellement par contact. La variole était donc un virus dont on a réussi à se débarrasser il y a à peu près une cinquantaine d'années de cela. Auparavant, d'ailleurs, tous les êtres humains devaient être vaccinés jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de variole humaine et donc on a cessé de vacciner les enfants. C'était aux alentours de 1976. Donc nous n'avons plus aucun cas de variole, mais comme la majorité, comme tous les virus, il y a des variants, il y a des virus qui se modifient un petit peu, et entre autres, ce qu'on appelle le Mpox, c'est-à-dire c'est une variole qui touche entre autres les primates comme les singes.
Bien, alors on y reviendra tout à l'heure, vous évoquiez justement le fait qu'en 1976, donc il y a près de 50 ans, vous l'avez mentionné, on vaccinait à tout va, et notamment les enfants. Est-ce que c'était une volonté et ça ne se transmettait qu'aux enfants à l'époque, ou bien c'était à titre uniquement préventif?
Non, c'était vraiment à titre préventif, et l'ambition de ces campagnes était évidemment d'éradiquer la variole, et donc pour ce faire, le plus simple, c'est de vacciner tous les enfants. C'est ce qu'on a fait aussi contre la polio, par exemple. La polio, qui, je vous rappelle, est un des rares vaccins obligatoires dans nos pays. Le but est... a été d'éradiquer ce virus, et on est arrivé pour la variole humaine. Pour la polio, malheureusement, on a failli y arriver, mais dans quelques pays où on ne vaccinait pas les enfants, il y a encore des cas de polio qui recirculent.
Bien, alors, avant de parler, je dirais, des conséquences, dans un premier temps, quels sont les symptômes de cette variole du singe? À quoi les auditeurs, j'imagine que pour le moment, ce n'est pas encore trop ancré dans notre pays, mais pour ceux qui voyagent beaucoup, notamment dans les régions équatoriales et subéquatoriales, quels sont les symptômes auxquels ils doivent être vraiment attentifs?
Mais ce sont des symptômes assez généraux, ce qui, au début en tout cas, ce qui peut poser problème, parce que les symptômes sont de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires diffuses, en fait comme dans la majorité des viroses, des infections virales. Il se fait que quelques jours après, enfin dans les 2-3 jours qui suivent le début de ces symptômes généraux, vont apparaître des vésicules, enfin des espèces de petites taches, un petit peu comme une varicelle, qui vont s'étendre sur tout le corps. En tout cas, avec le variant actuel qui circule, c'est le cas. Avec le variant qui nous avait atteint il y a 2 ans, les vésicules étaient plutôt localisées au niveau des organes génitaux. Et ces vésicules sont un petit peu plus grosses qu'en cas de varicelle classique. Je dirais que ce sont des petits furoncles.
Mmh. Bien, donc ça, c'est pour nos auditeurs, donc ne vous inquiétez pas outre mesure dès que vous avez un petit peu des symptômes grippaux, dirons-nous, mais à partir du moment où vous avez l'apparition de taches et de petites pustules, si je peux m'exprimer ainsi, il est peut-être temps à ce moment-là d'aller s'en inquiéter et d'aller voir un médecin, bien évidemment. Alors, Docteur Gérin, est-ce qu'on peut être sûr des chiffres? Parce que on nous abreuve de chiffres, notamment pour la République démocratique du Congo, où cette année, rien que cette année-ci, il y a déjà près de 600 personnes recensées décédées des suites de la variole du singe. On sait que dans ces pays-là, les recensements sont très compliqués de par la grandeur des pays, la superficie, et puis aussi par la difficulté de pouvoir avoir accès à des hôpitaux, à une distance relative proche. Alors, ces chiffres sont bien évidemment, j'imagine, à minima. Est-ce que, selon vous, l'infectiologue que vous êtes s'en inquiète aujourd'hui, ou bien il est juste sur, l'expectative et le fait d'être, vigilant?
Oui, je pense qu'il faut vraiment bien recadrer la problématique et insister sur le fait que ce virus ne circule pas du tout dans nos pays. En fait, il est vraiment localisé pour l'instant en République démocratique du Congo et même plutôt dans l'est de la RDC. On a apparemment décrit quelques cas dans les pays limitrophes, dans les pays voisins, comme au Burundi ou au Rwanda, mais ça reste encore extrêmement localisé. En ce qui concerne la véracité de ces chiffres, ben oui, évidemment, ce sont des chiffres qui sont tout à fait, invérifiables. Je vous rappelle qu'au début de la fameuse pandémie Covid, on disait qu'il n'y avait pas de Covid en RDC, alors que le monde entier croulait sous les cas de Covid. Donc ce sont des chiffres qu'il faut interpréter avec énormément de prudence. On parle effectivement de quelques centaines de morts, de quelques, sans doute, 10, 12, 14 000 cas décrits, mais le nombre est sûrement beaucoup plus important que cela. Mais j'insiste, c'est très localisé, géographiquement, c'est très très localisé. Même si on a décrit un cas en Suède, on décrira encore sûrement quelques cas dans d'autres pays, mais il n'y a absolument aucune raison de s'alarmer dans nos pays.
Bien, ça c'est déjà une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que dans la presse on lit un peu tout et n'importe quoi, et quand je dis ça, je mets pas en doute l'honnêteté intellectuelle de ces médias, mais en même temps, on ne sait pas trop à quel saint se vouer. Alors, dans cette variole du singe, quelle est la partie de la population la plus touchée théoriquement, docteur Gérin?
Alors, il semble qu'avec ce variant-ci, le qu'on appelle le clade 1B, il semble qu'avec ce variant-ci, on sorte un petit peu du groupe à risque que l'on avait vu souffrir de la variole du singe il y a 2 ans. À l'époque, c'était essentiellement, pour ne pas dire uniquement, des hommes, donc des homosexuels qui avaient été contaminés par des rapports sexuels. Aujourd'hui, ce qu'on sait de ce variant-ci, c'est que de nouveau, ça touche à peu près sans doute 99% les hommes, donc quasiment pas les femmes, mais on décrirait quelques cas chez les enfants aussi, de nouveau par contact proche, essentiellement les contacts les rapports sexuels, et peut-être par des contacts proches, parce que le contenu de ces vésicules, le contenu de ces lésions cutanées, donc le liquide qui est dedans, est riche en virus et peut transmettre, donc peut expliquer la contamination.
Et oui, et tout rapport sexuel mis à part, quand vous parlez de proximité, de contact proche. Est-ce que ça a à voir avec les muqueuses? Je veux dire par là, est-ce que la transpiration, par exemple, je pense notamment aux sportifs, hein, qui se côtoient dans des équipes qui se touchent par définition. Est-ce que eux, dans l'hypothèse où ce serait un virus qui se développerait, est-ce que eux aussi seraient à risque uniquement par la pratique du sport?
Oui, même si par ce moyen-là, le risque de transmission est beaucoup plus faible, mais il faut aussi insister sur un autre point très important et logique, en fait. On est contagieux lorsqu'on a des symptômes. Donc, un sportif qui n'a pas de fièvre, qui n'a pas de douleur musculaire, qui n'a pas de vésicule, n'est a priori pas contagieux du tout. Sauf s'il est en incubation, mais cette incubation va durer maximum deux jours. jours ou 3 jours.
D'accord.
Donc, dans l'énorme majorité des cas, la transmission se fait par contact proche, contact cutané, contact muqueux, par exemple, lors de rapports sexuels, avec quelqu'un qui est déjà malade, quelqu'un qui a de la fièvre, quelqu'un qui a déjà ses lésions cutanées.
Bien, alors, justement, partons dans l'hypothèse que la personne malade n'aura pas de finalité létale. Il faut compter combien de temps pour s'en débarrasser de cette variole du singe quand on l'a contaminée, quand on l'a contractée, je veux dire.
À partir du début des symptômes, on considère que, pour être tout à fait prudent, on considère que la personne ne sera plus contagieuse 3 semaines après le début des symptômes.
Mm-hmm.
C'est très large, sans doute 2 semaines, et pour être sûr, on garde le chiffre, donc la durée de 3 semaines pendant lesquelles il y aurait une contagiosité possible. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans, quand on a eu ces quelques centaines de cas en Belgique. La seule chose à faire, c'était de bien insister pour que ces personnes restent en isolement pendant 3 semaines.
Bien, alors, à l'état actuel, j'ai lu également, en me renseignant sur le sujet, que actuellement, en tout cas, ce virus ne se transmettait pas par voie aérienne, donc on peut rassurer nos auditeurs, on n'est pas reparti vers le port du masque obligatoire, etc., pour le moment.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La transmission ne se fait pas par voie aérienne, ce n'est pas un nouveau Covid, ce n'est pas non plus une rougeole, parce que je vous rappelle que la rougeole est un autre virus qui, lui, est extrêmement contagieux et qui peut se transmettre par voie aérienne. Mais donc ici, ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment par contact. C'est vraiment un contact cutané ou muqueux qui peut entraîner la contamination.
Bien, alors, je sais que vous, votre domaine de compétence, c'est bien sûr la médecine et pas la politique, mais imaginons que ce virus se développe et s'accroisse dans nos contrées, même s'il ne serait pas létal. Mais est-ce qu'on serait reparti, selon vous, vers des campagnes de vaccination avec tout ce que ça impliquait? C'est pas obligatoire, mais quand même, si vous ne le faites pas, vous voyez ce que je veux dire, ce qu'on a vécu comme un traumatisme dans nos pays, parce qu'il y avait une espèce de clivage, en fait, on regardait ceux qui n'étaient pas vaccinés comme des traîtres d'une certaine manière. Est-ce qu'on serait reparti vers cela, vers une obligation, entre guillemets, qui ne dit pas son nom, des vaccins et de la vaccination?
Non, écoutez, je crois qu'on peut être tout à fait rassuré, on ne va sûrement pas partir dans cette voie-là, ça n'aurait aucun sens de par le fait que le risque de transmission est vraiment limité à des personnes à risque, des personnes qui ont un comportement à risque, un, et deux, des personnes qui viennent ou qui voyagent dans les pays où il y a ce problème de dissémination actuellement. Donc il est hors de question d'imposer ou de proposer avec beaucoup de fermeté une vaccination plus ou moins obligatoire. Ça n'aurait absolument aucun sens.
Bon, moi, merci, c'est un petit peu quand même rassurant. Et ma dernière question, docteur Gérin, pour autant que ça, encore une fois, dans l'hypothèse où ça se développerait, quelles sont les mesures de prévention qu'on pourrait prendre tout un chacun? Évidemment, j'imagine les gestes barrières, mais est-ce qu'il y en aurait plus, il y en aurait moins?
Non, ce sont les gestes barrières simples, puisque c'est par contact muqueux et cutané que la transmission peut se faire. C'est évidemment ne pas avoir de rapport sexuel, qui soit protégé ou non, avec quelqu'un qui a des symptômes, qui est potentiellement infecté. Ça, c'est la base, je dirais. Et sinon, pas de port de masque, pas d'autres précautions à avoir du tout.
Eh bien, c'est gentil. C'est agréable d'avoir comme quelqu'un qui a une voix un petit peu optimiste sur la question, parce que c'est vrai, et je le rappelle, qu'on lit un petit peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui prennent plaisir à être anxiogènes et d'autres comme vous qui sont un peu plus rassurants. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, docteur Gérin. Je rappelle, vous êtes infectiologue et chef de service de médecine interne à Chirec Delta. Et à très vite, j'espère.
Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, hein, parce que soin des autres, vous faites en permanence, donc ne vous oubliez pas. Bonne journée.
Ne vous en faites pas, c'est très gentil. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.